c'est un milieu de dispersion. Une famille, dans le dénoncé, c'est un milieu dans lequel les énoncés hétérogènes se disséminent, se distribuent. Dès lors, le champ de vecteur qui est constitutif de l'énoncé va définir le champ de vecteur, c'est-à-dire les règles de passage d'un système à l'autre au niveau d'un énoncé. Ce champ de vecteur ou ces règles de passage vont définir ce que Foucault appelle l'espace associé ou adjacent de l'énoncé. L'énoncé se définira par son espace associé ou adjacent. Qu'est-ce que c'est que l'espace associé ou adjacent ? Qu'est-ce que c'est que l'espace associé ou adjacent ? Qu'est-ce que c'est que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, bon, bah, c'est le champ de vecteur, quoi. Hein? Le champ de vecteur. C'est essentiel, ça, vous comprenez, parce que peut-être vous serez moins étonné quand plus tard on verra que Foucault nous dit aussi une courbe est un énoncé. En effet, oh, écoutez, c'est agité ce matin. Une courbe est un énoncé, en tout cas, tout énoncé se définit par le champ de vecteurs qui lui est associé. Reprenez l'exemple que je vous donnais avec Kraft-Ebing, j'espère l'avoir rendu plus clair. Dans une même phrase, Kraft-Ebing passe d'un système, l'allemand standard, à un autre système, le latin. Un linguiste dira quoi ? Un linguiste dira, voyez, là, il y a deux systèmes homogènes. Le système allemand, le système latin. Il ajoutera, d'accord, Kraft-Ebing passe du système allemand dans la même phrase, du système allemand au système latin, chacun défini par ses constantes. Mais s'il fait ça, ça n'a aucun intérêt pour nous, linguistes, dira le linguiste. Pourquoi ? Parce que c'est pour des raisons extrinsèques. Raisons extrinsèques de quelle nature ? La pudeur ou la censure ? Ce qu'il a à dire est trop cru. Alors il se met à parler latin. Foucault dirait, il me semble, rien du tout. D'accord. Il se trouve que c'est pour des raisons extrinsèques, d'accord, qu'il se met tout d'un coup à parler latin. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau de l'énoncé, il y a des règles de passage intrinsèques. Il y a une ligne de variation inhérente. Et qu'un énoncé de Kraft-Ebing peut être défini comme ceci. Un champ de vecteurs qui détermine le passage du système allemand au système latin. En d'autres termes, la pudeur et la censure ne peuvent pas être considérées simplement comme des variables intrinsèques, comme des variables extrinsèques. C'est aussi dans l'énoncé de manière inhérente des règles de passage. Et si vous considérez n'importe quel énoncé, vous verrez qu'il y a l'équivalent. Tout système, tout énoncé est entre plusieurs langues et passe d'une langue à une autre. Vous prenez un énoncé scientifique quelconque, vous apercevrez qu'il ne cesse de passer. Là, Foucault donne un très bon exemple. Un énoncé sur page 48 de l'archéologie. Si unité il y a, Il prend l'exemple d'un énoncé clinique au 19e siècle. Un énoncé de médecine clinique. Ou bien, non, c'est d'ailleurs pas un énoncé de médecine clinique. Je crois que c'est un énoncé d'anatomie pathologique, mais ça importe plus. Un énoncé type Bichat ou Laennec. Et il nous dit si unité il y a dans un tel énoncé. Le principe n'en est pas une forme déterminée d'énoncé, c'est-à-dire le principe n'est pas un système homogène. Ne serait-ce pas plutôt l'ensemble des règles qui ont rendu simultanément ou tour à tour possible? J'ajoute les numéros. Premièrement, des descriptions purement perceptives, c'est-à-dire des énoncés de description. Mais aussi, deuxièmement, des observations médiatisées par des instruments, c'est-à-dire des énoncés instrumentaux. Troisièmement, des protocoles d'expérience de laboratoire, des énoncés protocoles, ce qui est très très différent. Des protocoles d'expérience de laboratoire, des calculs statistiques, encore, c'est un type d'énoncé différent. Des règlements institutionnels, des prescriptions thérapeutiques. Un énoncé d'anatomie pathologique au 19e siècle, et on dira autant de n'importe quel énoncé, est à cheval sur un ensemble de systèmes homogènes. Ne se réduit jamais à un seul système, mais consiste en un champ de vecteurs qui nous fait passer tout le temps d'un système à l'autre. Et jamais vous ne trouverez. Et jamais vous ne vous trouverez dans la situation système homogène en équilibre. Jamais. Est-ce que c'est un rêve de science? Non, peut-être que c'est un rêve de pseudo-science. Puisque dès que la science avance, elle détruit ses propres systèmes d'équilibre. Voyez la physique, voyez la chimie, etc. Rien ne peut être défini en équilibre. Bon, voilà, voilà ce que je voulais dire, voilà le premier point. C'est, je dirais que ce premier point me permet de définir l'énoncé comme fonction primitive. Je dis ça par commodité, parce que, quoique Foucault n'emploie pas ce mot, mais, comme fonction primitive, au sens où les mathématiques distinguent fonction primitive et fonction dérivée. La primitive et les dérivés. Je dis donc l'énoncé comme fonction primitive, c'est le champ de vecteurs associé à l'énoncé, c'est-à-dire sa règle de passage qui n'est pas plus générale que lui. Ce sont des règles qui ne sont pas plus générales que l'énoncé, contrairement à ce qui se passe dans la linguistique et dans les structures. C'est-à-dire l'énoncé comme règle de passage d'un système à l'autre, toujours à quelque niveau que vous le preniez, et si petit soit l'élément que vous considériez. Si bien que, par nature, un énoncé ne peut pas être séparé de son rapport avec d'autres énoncés. Puisque sa règle, c'est l'hétérogénéité. D'où l'idée de la famille d'énoncés, ou de ce que Foucault appellera parfois une multiplicité. Et il opposera la multiplicité à la structure. Ça, c'est le premier point. La fonction primitive, c'est le champ de vecteurs associés. C'est ça que je voudrais qu'il soit très clair. Ça doit l'être, maître. Pas de problème, pas de question, pas... Voilà. D'où j'avais entamé l'autre aspect, une deuxième grande différence. Deuxième grande différence qui cette fois porte sur ceci, non plus comme nous venons de voir, non plus le rapport de l'énoncé à d'autres énoncés avec lesquels il forme une famille en vertu des règles de passage. C'est plus ça. ça n'est plus les règles de variation inhérentes, le rapport de l'énoncé avec d'autres énoncés, ça va être quoi? Ça va être le rapport de l'énoncé avec ce qui lui sert de sujet, d'objet et de concept. Et le grand thème de Foucault, ça va être le sujet de l'énoncé, l'objet de l'énoncé et le concept de l'énoncé sont des fonctions dérivées de l'énoncé lui-même. Et l'on peut définir, en second lieu, on peut définir l'énoncé non plus comme fonction primitive, mais par rapport à ses fonctions dérivées. Et on peut le définir par ses fonctions dérivées, c'est-à-dire la place du sujet, la place de l'objet et la place du concept. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que, on sait déjà ce à quoi il faut s'attendre, que le sujet de l'énoncé ne sera pas la même chose que le sujet de la phrase ou de la proposition, que l'objet de l'énoncé ne sera pas la même chose que l'objet de la proposition, et que le concept de l'énoncé ne sera pas la même chose que le signifié du mot. Donc on va retrouver au niveau de cette seconde, de ce second domaine, on va retrouver les mêmes résultats, mais sous un autre aspect. Et cette fois-ci, les fonctions dérivées de l'énoncé, c'est ce qui apparaît non plus comme la fonction primitive qui apparaissait dans un espace associé ou adjacent, dans la terminologie de Foucault. Les fonctions dérivées, c'est-à-dire le sujet de l'énoncé, l'objet de l'énoncé, les concepts de l'énoncé, apparaissent dans un espace corrélatif de l'énoncé. Si bien que l'énoncé se définira à la fois par son espace associé, le champ de vecteurs, et par son espace corrélatif, que nous n'avons pas encore défini, mais dont nous savons seulement que cet espace corrélatif expose le sujet de l'énoncé, l'objet de l'énoncé et le concept de l'énoncé. Oh, c'est complet, c'est tout, quoi. Oui, ça va, le premier point? J'y tiens beaucoup, là, tout ça. Vous entrez pas. Je suis un pauvre homme malheureux. Alors, vous voyez, quoi. Donc, essayons de déterminer les fonctions dérivées, puisqu'on peut aussi bien définir. On peut définir l'énoncé par sa fonction primitive, ça c'est fait. Hein. Et dans la mesure où vous n'avez pas de questions à poser, c'est acquis. Et on peut le définir aussi par ses fonctions dérivées. Alors, on a vu, la dernière fois, et on en était là, je crois, mais c'est tellement délicat que j'avais le souci de reprendre, on a vu le premier aspect, la première dérivée de l'énoncé, à savoir, qu'est-ce que le sujet de l'énoncé? Et Foucault nous dit, eh ben, le sujet de l'énoncé, ce n'est pas du tout le sujet d'énonciation de la phrase. Le sujet d'énonciation de la phrase, nous avons vu comment, là encore, le linguiste pouvait l'assigner au niveau du discours sous la forme de l'embrayeur ou du sui référentiel. J'avais pris comme exemple typique la linguistique de Benveniste, le « je » comme première personne, mais vraie première personne, c'est-à-dire comme sui référentiel. Je me promène n'est pas un vrai je. Pourquoi? Parce que C'est un je strictement assimilable à un il. Il n'y a pas de différence de nature entre les deux propositions, je me promène et il se promène. Si vous dites je me promène, il n'y a pas de différence de nature avec Pierre se promène. En revanche, si vous dites je le jure, il y a une différence de nature avec il le jure. Et pourquoi ? C'est parce que quand vous dites il le jure, vous décrivez exactement comme quand vous dites il se promène ou je me promène. Quand vous dites je le jure, vous décrivez pas. Vous jurez, c'est-à-dire vous le faites. Quand vous dites je me promène, vous ne le faites pas. Quand vous dites je le jure, vous jurez. En d'autres termes, le je à la première personne est là non assimilable à un il, car lorsque vous dites il le jure, vous ne faites rien, vous décrivez. Et quand vous dites je le jure, c'est autre chose. Là, vous avez une butée. Vous butez sur l'irréductibilité du je à un il, c'est-à-dire le je comme première personne pure, comme embrayeur ou comme sui référentiel. Or, c'est peut-être vrai, Foucault dit, mais c'est peut-être vrai pour le sujet d'énonciation de la phrase. Mais est-ce que c'est vrai pour l'énoncé ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la phrase dérive d'un sujet d'énonciation. La phrase dérive d'un sujet d'énonciation, le sujet qui la prononce. Tandis que l'énoncé, il ne dérive pas de son sujet. C'est même l'inverse. C'est la place du sujet qui dérive de l'énoncé. D'où je dirais à la lettre, la place du sujet est une fonction dérivée de l'énoncé. Tout dépend de l'énoncé. Un énoncé étant donné, il renvoie à une position de sujet très variable d'après sa nature. Ah bon, mais alors, santé, on retrouve exactement le même truc que tout à l'heure. Et c'est pas étonnant. Je disais tout à l'heure, les conceptions logiques ou linguistiques opèrent par constante intrinsèque, variable extrinsèque. L'énoncé nous présente une toute autre donnée, les lignes de variation inhérentes ou intrinsèques. Maintenant, si je reviens à la conception du sujet de l'énonciation de la phrase chez Benveniste, je dirais que c'est la même chose. Il opère par constante intrinsèque et variable extrinsèque. En effet, la constante intrinsèque, c'est quoi ? C'est la forme de la première personne. C'est l'embrayeur comme constante intrinsèque. D'où la phrase, quelle qu'elle soit, va dériver. Toute phrase dérive d'un sujet d'énonciation, c'est-à-dire d'un je première personne, qui agit non pas comme sujet de l'énoncé, mais comme sujet de l'énonciation. Je dirais, l'embrayeur est une constante intrinsèque. Et si on me dit en effet qui ai-je, je réponds linguistiquement n'importe qui, c'est-à-dire ai-je celui qui le dit, ai-je celui qui dit je. Ça marque bien à quel point je est linguistiquement une constante intrinsèque de ce que Benveniste appelle le discours. Et je dis toute cette manière de penser opère par constante intrinsèque et variable extrinsèque. La variable extrinsèque, c'est qui ? C'est quoi ? C'est celui qui dit je. C'est-à-dire, ça peut être n'importe qui. Et je celui qui le dit. Dans la formule et je celui qui le dit, vous avez réuni la position d'une constante intrinsèque et le jeu des variables extrinsèques. Ça peut être vous, moi. Faut pas s'étonner qu'au niveau de l'énoncé, tout change. L'énoncé renvoie à la place, à une position, à une place de sujet fondamentalement variable. C'est une variable intrinsèque. Loin que l'énoncé dérive d'une position de sujet constante, une position relative de sujet dérive de l'énoncé et dépend de sa nature. C'est dire que le sujet de l'énoncé, comme dira Foucault, est une variable. Non, il le dit pas, mais ça fait rien. Il le pense. Ça veut dire que le murmure est une variable intrinsèque. La position de sujet de l'énoncé est une variable intrinsèque qui découle de l'énoncé lui-même. D'où les exemples que je vous donnais la dernière fois, là, qui sont des exemples de Foucault lui-même. Un texte littéraire à un auteur, voilà une position de sujet. Mais une lettre n'a pas un auteur, elle a un signataire, un contrat à un garant, un recueil de textes à un compilateur, etc. Tout ça, c'est des positions de sujet. Et que vous ne pouvez pas ramener à la forme d'un jeune. Ce sont des fonctions dérivées de l'énoncé, c'est des variables intrinsèques de l'énoncé. Et bien plus, je vous rappelais qu'un même énoncé peut avoir plusieurs positions de sujet. Une lettre de Madame de Sévigné, je vous disais la dernière fois, a évidemment un signataire, Madame de Sévigné, dans la mesure où cette lettre s'adresse à sa fille, mais elle renvoie aussi à un auteur, dans la mesure où elle circule dans les milieux littéraires du XVIIe siècle et où la fille en donne copie et lecture. À ce moment-là, Madame de Sévigné est un auteur. Revenons au cas de Proust. Le texte de La recherche du temps perdu, à La recherche du temps perdu renvoie à un auteur qui est Proust, position de sujet, mais passe aussi par un narrateur, qui n'est pas la même chose que l'auteur. Et qui est aussi une position de sujet. Quel rapport y a-t-il entre l'auteur et le narrateur est un problème que, par exemple, des critiques très profonds, comme Genette, ont étudié de très près, ou comme Barthes avait étudié de très près. Je vous citais la dernière fois le discours indirect libre, qui m'intéresse particulièrement, comme, deuxièmement, un très beau cas d'énoncé. Qui renvoie simultanément à plusieurs sujets insérés les uns dans les autres. C'est un énoncé qui a plusieurs positions de sujet. Bon, je dirais donc que le sujet est une variable intrinsèque de l'énoncé. Il dérive de l'énoncé et non l'inverse. Mais alors, ces positions de sujet qui peuvent être multiples, vous voyez toujours le thème de la multiplicité chez Foucault, qui peuvent être multiples pour un même énoncé. Non seulement la position de sujet varie d'un énoncé à un autre, loin que tous les énoncés aient une position de sujet commune qui serait le sujet d'énonciation, le « je ». Là, non seulement ça varie d'un énoncé à un autre, mais un même énoncé a plusieurs positions de sujet. Dès lors, ces positions de sujet, c'est quoi? Il faut dire que c'est littéralement les modulations de moi. Les modulations d'une troisième personne, c'est-à-dire les variations intrinsèques de la troisième personne, d'un « il » infiniment plus profond que tout « je ». Qu'est-ce que c'est que ce « il » ? De même que tout à l'heure, je disais, faites attention, le « je » de Benveniste n'est pas n'importe quel « je ». C'est le « je » de l'énonciation, C'est pas le « je » de « je me promène », c'est le « je » de « je jure ». De même, je dirais, mais ça renverse tout, le « il » de Blanchot ou de Foucault n'est pas n'importe quelle troisième personne. Il renverserait complètement le schéma. Il dirait même, oh ben oui, le il de il se promène, au sens de Pierre se promène, est assimilable à un je. Il ferait les réductions inverses, Blanchot et Foucault. Le vrai il, c'est quoi? C'est le on. C'est le on. Le on inassignable. Ceux qui connaissent Blanchot savent et se rappellent les pages très belles de Blanchot sur « On meurt, on meurt », idée infiniment plus profonde et expression infiniment plus profonde que « je meurs ». On souffre, c'est ça la troisième personne, élever quelque chose, élever une expression à la puissance du « on ». Et l'intense valorisation du « on » chez Blanchot signifie quoi déjà chez lui? Ça signifie une chose très simple. Toutes les positions de sujet ne sont que la modulation d'un « on » anonyme. D'un « on » qui est une non-personne. Et on dirait que c'est un benveniste retourné complètement. Le secret de l'énoncé est du côté de la non-personne. On ne peut même plus dire la troisième personne. Quand on dégage du « il » le « on », on atteint au domaine de la non-personne et les positions de sujet sont les variables intrinsèques de la non-personne, les variables intrinsèques du « on ». On parle. Les sujets, quels qu'ils soient, comme sujets de l'énoncé, les sujets de l'énoncé sont les variables intrinsèques du « on parle ». Vous me direz « on parle », qu'est-ce que ça veut dire? Un texte de Blanchot particulièrement prenant, je trouve, qui se propose de commenter Kafka. Je lis le texte, je souhaite même pas le commenter parce que c'est question de si ça vous dit quelque chose, quoi, ce texte. Il ne me suffit donc pas d'écrire, c'est dans La part du feu, page 29, à propos de Kafka. Il ne me suffit donc pas d'écrire. Je suis malheureux. C'est le texte le plus net, je crois, où Blanchot s'en prend implicitement, puisqu'il ne dit rien, sous-entendu, s'en prend au linguiste et à la théorie des embrayeurs. Il ne me suffit donc pas d'écrire « je suis malheureux ». Tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien sur le mode du langage. Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. Merde. Alors peut-être je me sentirai en cause et ma douleur s'éprouvera sur ce monde d'où elle est absente, où elle est perdue et moi avec elle, où elle ne peut ni se consoler, ni s'apaiser, ni se complaire, où, étrangère à elle-même, elle ne demeure ni ne disparaît et dure sans possibilité de durer. Poésie et délivrance. Mais cette délivrance signifie qu'il n'y a plus rien à délivrer, que je me suis engagé en un autre, où pourtant je ne me retrouve plus. Bon. Oui. Alors, bon. Voilà que les positions de sujet sont les variantes intrinsèques d'un « on parle ». Et quand Foucault reprend ce thème de Blanchot, il le renouvelle très profondément. Pourquoi? Parce que, et là je ne voudrais pas revenir là-dessus, je fais juste un raccord. Vous vous rappelez qu'on a vu à quel point la théorie de l'énoncé chez Foucault avait besoin d'un « on parle ». D'un « on parle » donc, quel est le statut chez Foucault? Si je dis « ça a besoin d'un « on parle », il n'y a pas encore de différence, Foucault-Blanchot. Même, il faudrait dire, là, il reçoit son inspiration de Blanchot. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas qu'il rompe avec Blanchot, c'est qu'il va dans une direction qui n'est plus celle de Blanchot lorsque, pour son compte, il essaie de déterminer la nature de ce « on parle ». Et on a vu ce que c'était le « on parle » chez Foucault, dont toutes les positions de sujet sont les variantes. C'est ce qu'il appellera l'être-langage, c'est-à-dire, dans les mots et les choses, l'être du langage, c'est-à-dire la manière dont le langage se rassemble à tel moment. Manière elle-même très variable. Encore une fois, ce n'est pas de la même manière que le langage se rassemble à l'âge classique, au XVIIe siècle, et se rassemble au XIXe siècle. Donc, l'être du langage est toujours un être historique, et c'est lui qui constitue la figure du « on parle à tel moment ». Ou bien, ce que l'archéologie du savoir n'appelle pas l'être du langage, comme les mots et les choses, mais c'est l'équivalent, appelle « il y a du langage », le « il y a du langage », qui est aussi un « il y a » historique, puisqu'il varie suivant les époques. Mais, une fois que vous vous donnez l'être du langage, une fois que vous avez su déterminer l'être du langage, ou le « il y a du langage », c'est-à-dire le « on parle », toutes les positions de sujet des énoncés de l'époque correspondante deviennent des variantes intrinsèques de ce « on ». Très curieux, pour mon compte, j'attache une importance énorme à ces conceptions qui se sont prises, qui ont combattu toute personnologie, y compris la personnologie linguistique. C'est très curieux que la personnologie a trouvé un refuge dans la linguistique avec la théorie des embryons. D'où l'élévation du « on » et de la troisième personne. Chez un certain nombre d'auteurs, me paraît très important. Il faudrait même se reporter au livre d'un grand auteur américain, Ferlinghetti, qui intitulait un roman Quatrième personne, la quatrième personne du singulier, et qui est un texte très important. Il faudrait dire en effet le on ou le il, irréductible au il ordinaire. Ce « on » comme condition du langage. C'est bien comme une espèce de quatrième personne. Bon. Et alors, parmi les textes les plus émouvants de Foucault, je crois qu'il y a ces textes où Foucault nous dit, mais où nous dit à sa manière, enfin d'une manière très discrète, qu'il ne souhaite personnellement que ça. Que personnellement, il ne souhaite que venir à sa place comme une variante intrinsèque du « on parle » de son époque. Et vous trouvez par exemple au début du petit du discours intitulé « L'ordre du discours », qui est un discours effectivement prononcé par Foucault, vous trouvez le texte suivant. « J'aurais aimé qu'il y ait derrière moi une voix qui parlerait ainsi. » Deux points, ouvrez les guillemets. « Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, eux les mots. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute, il faut continuer. C'est peut-être déjà fait, Ils m'ont peut-être déjà dit les mots. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait si elle s'ouvre. À la fin, qui est comique, ça m'étonnerait si elle s'ouvre, la porte de mon histoire. Vous avez tout de suite reconnu l'auteur de ce texte. C'est un des grands auteurs du On parle, du grand murmure, à savoir Beckett. Bon. Venir à sa place comme variante intrinsèque du on parle. Il y aura une place Blanchot, il y aura une place Foucault, il y a une place Beckett. Après tout, ceux qui n'aiment pas cette place-là, ils ne viendront pas. Je veux dire, les personnologues, ils occuperont d'autres places, mais dans un monde qui ne sera pas celui des énoncés. Et dans un autre texte que j'ai déjà cité, dans une conférence intitulée « Qu'est-ce qu'un auteur ?», la conférence de Foucault se termine par « On peut imaginer une culture où les discours circuleraient et seraient reçus sans que la fonction auteur apparaisse jamais. » En effet, si auteur c'est une position de sujet parmi d'autres, on peut concevoir une civilisation qui ne comporterait pas cette dérivée, qui produirait des énoncés avec des fonctions dérivées, mais il n'y aurait pas la fonction auteur. Donc, on peut imaginer une culture où les discours circuleraient et seraient reçus, sans que la fonction auteur apparaisse jamais. Tous les discours, quel que soit leur statut, leur forme, leur valeur, et quel que soit le traitement qu'on leur fait subir, se dérouleraient dans l'anonymat du murmure. On n'entendrait plus les questions si longtemps ressassées. Qui a réellement parlé? Est-ce bien lui et nul autre? Avec quelle authenticité ou quelle originalité? Et qu'a-t-il exprimé du plus profond lui-même dans son discours? Mais on entendrait d'autres questions comme celle-ci. Quels sont les modes d'existence de ce discours? C'est-à-dire de quelle famille d'énoncés s'agit-il? Quels sont les modes d'existence de ce discours? D'où a-t-il été tenu? Comment peut-il circuler et qui peut se l'approprier? Quels sont les emplacements qui y sont ménagés pour des sujets possibles? C'est ça la question du sujet de l'énoncé. Quels sont les emplacements qui y sont ménagés pour des sujets possibles? Qui peut remplir ces diverses fonctions de sujet? Et derrière toutes ces questions, on n'entendrait guère que le bruit d'une indifférence. Qu'importe qui parle. Alors, on a au moins une première réponse à notre seconde question. Qu'est-ce que c'est que l'espace corrélatif de l'énoncé? Je dirais l'espace corrélatif de l'énoncé, c'est l'ordre des places. L'ordre des places pour des sujets possibles dans l'épaisseur d'un « on parle ». Ce sont les fonctions dérivées de l'énoncé. Vous voyez, je ne définis plus comme tout à l'heure l'énoncé par un champ de vecteurs. Je le définis par un ordre des places et des lieux dans le « on parle », dans le « il y a » du langage. Par là, je dis, le sujet de l'énoncé, fonction dérivée de l'énoncé lui-même, n'a rien à voir avec le sujet de l'énonciation d'une phrase. Et vous ne découvrirez pas un énoncé si vous n'assignez son sujet comme une place dans, comme il dit, le murmure anonyme. Voyez que le nom propre, notamment, prend une toute autre fonction. Le nom propre n'est plus une figure du « je », ce n'est plus une figure de l'embrayeur. C'est une variante intrinsèque du « on ». C'est sous mon nom propre que je suis le moins sujet. Non, j'ai tout détruit. C'est sous mon nom propre que je suis le moins jeune. Et en effet, votre nom propre n'énonce pas une personnalité, il énonce ce qui est tout à fait différent, une singularité, c'est-à-dire votre place dans le on parle. Bien, comprenez, il faudrait faire la même chose pour l'objet de l'énoncé et pour les concepts de l'énoncé. Et si on y arrive, on pourra se dire qu'on a fini. On a fini ce point très délicat sur l'énoncé. Ouais. Eh bien oui, vous devez sentir ça. Je disais, la linguistique, non seulement au niveau des propositions, mais au niveau du sujet, elle opère par constante intrinsèque, variable extrinsèque. Constante intrinsèque, l'embrayeur. Variation intrinsèque, extrinsèque, celui qui vient occuper la place, celui qui dit jeune. Considérons l'objet de la proposition. On va trouver au niveau de l'objet de la proposition, non pas de l'énoncé, au niveau de l'objet de la proposition, on va trouver le même truc, au point que ça devient monotone, mais plus c'est monotone, plus que c'est clair, je pense, peut-être, bien sûr. Qu'est-ce que nous dit, en effet, la logique des propositions? Elle nous dit qu'une proposition a un référent. Ou, on peut dire, au lieu de référence, on dira intentionnalité. C'est-à-dire, la proposition vise à quelque chose. Et c'est pas par hasard que les théoriciens de la proposition ont retrouvé comme naturellement un vocabulaire phénoménologique sur l'intentionnalité. Vous voyez Searle récemment. Mais peu importe, j'en reste à de très grosses choses. Je dirais la référence est une constante intrinsèque de la proposition. Toute proposition vise un quelque chose. Toute proposition vise, admettons, ce qu'on appellera un état de choses. C'est son aspect désignation. C'est une constante intrinsèque de la proposition. La référence est une constante intrinsèque de la proposition. Ceci dit, qu'il y ait effectivement un état de choses ou pas, ça, c'est une variable extrinsèque. C'est une variable extrinsèque. Je dis la table est verte. C'est une proposition qui vise un état de choses. Il se trouve que la table est blanche. Bon. Donc, il n'y a pas ici et maintenant un état de choses qui vient remplir ma visée propositionnelle, mon intention propositionnelle. Vous comprenez, l'état de choses lui-même est une variable extrinsèque à la proposition, ça va de soi. Mais que la proposition vise un état de choses, ça c'est une constante intrinsèque de la proposition. C'est pas compliqué. Alors on peut même faire des échelons. À savoir, la proposition, la table est verte, garde tout son sens, même quand il n'y a pas d'état de choses qui vient remplir l'intention, c'est-à-dire quand je suis appuyé sur une table blanche. Il y a un état de choses possible. Elle vise un état de choses possible. Il est possible, il serait possible que la table soit verte. Autre exemple, j'ai rencontré une licorne. Vous n'ignorez pas que les licornes, enfin croit-on, n'existent pas. bien j'ai rencontré une fée. Vous savez que les fées n'existent pas, ou bien j'ai rencontré un vampire. On dit que les vampires n'existent pas. C'est moins sûr, mais supposons que les vampires n'existent pas. J'ai rencontré un vampire, ma proposition a toujours une référence. C'est une constante intrinsèque. Simplement, cette intention, cette fois-ci, n'est plus comme tout à l'heure, la table est verte. Cette intention ne peut pas être remplie. Pourquoi ? Parce que la réalité du monde physique exclut qu'il y ait des vampires dans le monde. Donc je ne peux pas avoir rencontré un vampire. Je dirais que la référence de ma proposition reste vide. Reste vide, c'est ce qu'on appellera une proposition fictive. Du type, j'ai rencontré une licorne. Donc cette fois-ci, j'ai une intention qui ne peut pas être remplie. Tout à l'heure, j'avais une intention qui pouvait ou non être remplie. Là, j'ai une intention qui ne peut pas être remplie. Je peux l'appeler une intention seconde. Je peux même concevoir une intention tierce. Si je dis le cercle est carré,